Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues cette semaine, ce sont les lecteurs. Aujourd'hui, ils sont lecteurs, mais aussi blogueurs, critiques d'un jour, de toujours, libraires et parfois mille autres choses encore. C'est comme ça qu'on les aime. En fait, de lecture, je ne délie pas Rabelais et Don Quichotte le dimanche avec Bouillet. Quel écrasant livre ! Ils grandissent à mesure qu'on les contemple, comme les pyramides, et on finit presque par avoir peur. Ce qu'il y a de prodigieux dans Don Quichotte, c'est l'absence d'art et cette perpétuelle fusion de l'illusion et de la réalité qui en fait un livre si comique et si poétique. Quel nain que tous les autres à côté ! Comment on se sent petit, mon Dieu, comment on se sent petit ! Voilà ce qu'écrit Gustave Flaubert à propos de Don Quichotte dans une lettre adressée à Louis Collet en 1852, livre qu'il présente dans une lettre suivante comme celui qu'il savait par cœur avant de savoir lire et dans lequel il retrouvait toutes ses origines. Il est 14h passé de 1 minute, plaisir continu de la lecture, bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Ces nouvelles vagues, nous pensons qu'elles sont portées par des êtres singuliers et nous pensons qu'elles naissent de moments marquants. Cette semaine, nous avons proposé à Romain Villet d'aller à la recherche de ces moments-là dans sa mémoire. Musicien, il est aussi auteur et il est aussi grand lecteur. Aujourd'hui, il évoque Pierre Villet qui écrit en 1914 un livre consacré à la condition des aveugles, à leur vie quotidienne et qui défait au passage quelques croyances encore bien répandues. Le monde des aveugles, c'est le titre de l'ouvrage « Expérience de lecture vers 14h50. Troisième moment de notre semaine consacrée aux lecteurs et comme chaque mercredi, l'émission du milieu de la série se concentre sur les enjeux liés aux réseaux, aux nouvelles technologies et à l'Internet. Dans les mutations de la lecture, récent ouvrage collectif dirigé par Olivier Bessard-Banqui est paru aux presses universitaires de Bordeaux, la sociologue Martine Poulain nous garde d'entretenir un regret sans fin à l'égard d'un âge d'or des lettres et de la lecture qui n'a jamais vraiment existé. Elle rappelle que le peuple des Lumières était analphabète et que l'on craignait au XIXe siècle les mauvais lecteurs de feuilletons ou de textes impies. Aujourd'hui, la diffusion massive du livre est une réalité. Il y a, écrit-elle, plus de livres disponibles que ne permet d'en lire une vie entière. Et tout en niant pas qu'il demeure en France des personnes qui ne lisent aucun livre par an, tous les chercheurs ayant collaboré à cet ouvrage soulignent le rôle absolument prédominant, absolument important que jouent Internet et le partage des lectures en ligne, notamment via les blogs et les sites dédiés. Ce sont ces partageurs qu'on a réunis, en tout cas certains d'entre eux, cet après-midi autour de la table. Vous, Hugues Robert, vous êtes libraire à la librairie Carib, 10e, 12e arrondissement à Paris. Et vous avez, vous, co-animé un site qui s'appelle carib2.wordpress.com, pour être précis. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci. En fait, c'est Carib 27.
Carib 27.
Oui.
Mais décidément, ce chiffre 7 a tendance à échapper à mon clavier. Vous n'êtes pas le premier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut en dédier. En déduire.
Non, mais au tout début, c'était Carib de 2, donc c'est peut-être pour ça. Mais en fait, depuis un an, c'est Carib 27.
Ah oui, donc vous n'avez rien envie d'imaginer de spécial par rapport au fait que le chiffre 7 échappe à mon clavier?
Non.
Ça viendra. Et avec vous, Teddy et Héloïse, vous êtes cofondateurs et animateurs du site Un dernier livre avant la fin du monde. Il a une adresse internet plus courte que celui-ci, on va le dire.
Oui.
Et on évoquera donc avec vous le partage des lectures en ligne. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci pour l'invitation.
C'est quoi sa petite adresse courte ?
Undernierlivre.net.
Voilà. Ça fait combien de temps que ces sites existent, le vôtre par exemple ?
3 ans.
Ça fait 3 ans ?
Ouais.
Et vous le créez pour quelles raisons et dans quelles conditions ?
Pour cette envie de partage, justement, de mettre en avant certaines littératures qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir de partout. Puis de parler de livres qui nous touchent, qui nous ont marqués et qui, à un moment donné, on a eu envie de on parlait autre que dans notre cercle d'amis et de tout, éventuellement de le porter à d'autres personnes qui pourraient eux aussi être marquées par ça, avoir la même fibre que nous. Et c'était ça l'idée du site, de ce partage de titres, d'auteurs moins connus, moins communs, mais forcément intéressants.
Quand vous parlez d'une certaine littérature dont vous aviez envie de parler et entendre parler, c'est quelle littérature ?
Alors là, je parle vraiment pour moi. Je suis très influencé et j'aime beaucoup la littérature américaine. Et j'aime beaucoup tout ce qui va être la métafiction et d'autres mouvements littéraires assez récents. Et qui est loin d'être mis en avant forcément, et pourtant qui est pétri de talent, d'imagination, et qui renouvelle la littérature, qui apporte vraiment quelque chose d'intéressant sur la technique, l'écriture, mais aussi sur l'analyse du monde contemporain. Et je trouvais ça dommage qu'on parle pas assez d'auteurs comme Thomas Pynchon, ou William Gass, ou Mordecai Richler en canadien. Et c'est cette envie-là de mettre ces auteurs-là en avant.
Quand vous dites mettre en avant ou qu'on ne parle pas assez, vous désignez des lieux en particulier. Ce serait quoi la presse quotidienne, la presse spécialisée? Ce sont ces endroits-là où vous attendez de lire des choses sur les livres?
Non, parce que presse papier, j'en ai très peu lu. J'ai tout de suite eu cette culture internet de découvrir des auteurs comme ça, en passant par le site d'auteurs américains notamment. Internet me paraissait être un portail intéressant justement pour cette possibilité en étant chez soi, devant Google, de pouvoir trouver à peu près tout ce qu'on veut. Et ça me paraissait être plus pertinent que la presse écrite maintenant, et moins onéreux aussi.
Mais quand vous dites on n'en parle pas assez de cette littérature, c'est qui n'en parle pas assez?
Les médias.
C'est nous par exemple? C'est la radio, c'est les journaux?
La presse écrite, ouais, un petit peu, et les sites internet que j'avais l'habitude de lire, ouais. Il y avait un manque, je trouvais, de certains auteurs où je voulais lire des analyses ou des avis dessus et que je ne trouvais pas.
Et vous aviez déjà cette pratique d'aller lire ailleurs, d'aller chercher, notamment chez ces auteurs américains.
Oui, bien sûr. Ouais.
Des sites d'auteurs qui rendaient compte de leur propre lecture.
Oui, ou par exemple, il y a Chuck Palahniuk qui a un espèce de site blog où il met en avant d'autres auteurs. Et j'ai fait un peu ma culture littéraire par des sites comme ça, en fait, en lisant ces analyses de Don DeLillo ou de Tom Jones, etc. C'est venu comme ça, cette envie de partage, en fait. Ça fait un peu partie de la littérature. Un livre, quand on a apprécié un livre, on a envie de le partager, de le passer à d'autres gens. Et c'est venu de ça, ouais.
Par conséquent, il s'agissait de sites en anglais, des sites anglophones?
Oui, ouais.
Donc parfaitement anglophones.
Pas parfaitement.
Suffisamment.
Il y a Google Translate, c'est pas mal.
Héloïse, vous participez à la fondation dès le départ de ce blog ou un peu après?
Non, pas du tout. Moi, je suis plutôt très récemment, moi, sur le site.
Ouais.
C'est même parti très vite, très fort. Voilà.
Et vous arrivez par quel chemin?
Facebook, les réseaux sociaux.
Racontez-nous.
C'était... moi, j'ai... une grande lectrice, on va dire, avant tout. Et je travaille aussi dans le soin. Et c'est vrai que pour moi, la lecture était importante à bien des titres, que ce soit personnel ou même professionnel. Donner envie de lire, faire aimer lire, passer le cap du complexe vis-à-vis de la littérature.
Peut-être qu'on peut préciser ce soin, parce qu'en effet, ça fait vraiment
sens.
Oui,
je suis orthophoniste, donc c'est vrai que je travaille avec les dyslexiques, les dysorthographiques, le rapport à l'écriture, la lecture... J'ai pu voir à quel point c'était parfois compliqué, notamment pour les jeunes. Et avec la passion que j'ai de lire, c'est vrai que j'ai toujours eu envie de donner envie de lire.
C'est quelque chose qui est facile, par exemple, dans le cadre de votre pratique professionnelle, le fait de donner envie de lire. On a dit depuis ces derniers jours qu'il y avait beaucoup d'indicibles aussi hein, dans la relation qu'on a avec un livre, dans le plaisir que l'on prend à la lecture. Quand vous recevez des jeunes ou des moins jeunes en soins, c'est quelque chose que vous arrivez facilement à transmettre et à mettre en mots?
Mais c'est ce que vous avez dit, c'est la notion du plaisir. Amener la notion du plaisir. Parce qu'en fait, finalement, on... Quand on arrive à faire pousser cette toute petite graine de plaisir chez un enfant qui jusque-là voyait que le décodage son, lettre, lettre, son, qui fonctionnait plus ou moins bien, malheureusement plutôt moins bien que... Et amener du plaisir là-dedans, c'est magique. Et là, on peut avoir parfois des déclics qui font vraiment plaisir et qui encouragent à continuer.
C'est vrai qu'on a oublié en introduisant cette semaine sur la lecture, et heureusement que vous êtes là pour le rappeler, que ce moment de la lecture et les lecteurs, ce sont aussi des gens qui ont appris à lire un jour, et parfois des gens qui ont buté sur la lecture, des enfants ou des adolescents, même des adultes. Quand cela se résout, comment est-ce que justement ces adolescents ou ces enfants en parlent de leur accession à la lecture ?
Alors, c'est pas toujours verbalisé, c'est plus dans des retours de « Oh, on m'a emmené à la librairie, j'ai choisi un livre moi-même et tu m'en avais parlé, c'était... » et là, j'ai l'impression d'avoir été utile plus. Voilà. Ça change pas l'école, ça change pas le rapport à... Mais en attendant, voilà. Bah, ça marche pas à tous les coups, mais quand ça marche, c'est... C'est fantastique. Et c'est vrai que du coup, j'ai toujours fait ça avec mes patients, conseiller des livres. J'ai des bibliographies pour chacun. J'ai les petits bouquins que je leur mets dans la poche parfois pour qu'ils lisent chez eux. Et puis, quand via je suivais le site en fait d'un dernier livre sur Facebook et par le biais de petites choses que je pouvais écrire sur des coups de cœur que j'avais, les fondateurs, les chefs...
Vous ont repéré.
M'ont repéré, gentiment. Et puis, j'ai fait un petit essai, et voilà.
C'est quelque Donc, chose que vous aviez l'habitude de faire, de poster sur Facebook ou d'autres réseaux, vos coups de cœur, des lectures...
Oui, je le faisais déjà, mais à mon tout petit réseau à moi, mais c'était déjà tellement agréable de le faire. Et là, non, c'est passé un petit peu plus sérieux, quand même.
On verra ce que ça change. Hugo Robert, est-ce que vous vous souvenez de la création de ce portail et de ce site internet ?
Oui, en fait, ça s'est créé en plusieurs étapes. Il y a plusieurs phénomènes qui se sont rencontrés. En fait, l'un qui était beaucoup plus égoïste que ce qui vient d'être dit, c'est que moi j'étais un gros lecteur depuis bien des années. Et puis du côté de 2009, en fait, j'ai commencé à ma grande horreur à plusieurs fois dans l'année à entamer un livre que j'avais déjà lu en réalité, mais je me rendais compte au bout de 30 pages. Et c'est assez agaçant, ça fait craindre un peu en se disant, et c'est un peu jeune pour Alzheimer, enfin même si on ne sait pas. Et je me suis dit, bon, il y a qu'un moyen de lutter contre ça, c'est de prendre quelques notes, même très brèves, mais comme ça fixe le fait que je l'ai lu. Et puis j'ai commencé à faire ça, c'était le moment effectivement où les réseaux sociaux commençaient à démarrer, il y avait Facebook. Hein. Et il y a des gens qui disent, ah, c'est bien ce que tu écris.
Et puis, et vous le postiez sur votre propre profil.
Je le postais comme ça, mais bon, c'était 10 lignes ou 15 lignes au début.
Quand même.
Et puis, j'y ai pris goût. Et parallèlement à ça, donc qui était très personnel, hein, avec une optique d'échange assez limitée en fait, hein, plus un petit cercle d'amis sur réseaux sociaux. Il y a eu le projet de la librairie Caribde donc, qui s'est monté et qui naissait lui-même d'une autre librairie encore plus petite que Caribde, qui s'appelle Scylla. C'est pour ça qu'on est passé de Scylla à Caribde, et qui, elle, était spécialisée en science-fiction, en fantastique et en fantasy, et où il y avait énormément de discussions, enfin, on s'est tous rencontrés autour de cette librairie, et c'est là qu'est née Caribde, autour de discussions sur les livres. Et on s'est dit, peu à peu, comme on était un collectif donc de 4 puis 5 personnes pour faire la librairie, mais avec une seule personne, dès le départ, dont on savait qu'elle serait présente en permanence dans la librairie, et les autres, on graviterait autour, on viendrait pour animer des rencontres, mais on serait à distance. Et que pour faire partager finalement nos lectures, on pourrait pas le faire en direct avec les gens ou rarement. Et donc il fallait qu'on trouve un moyen de le faire. Et c'est là qu'on s'est dit on va publier finalement ces critiques. Alors on préfère notes de lecture parce que critique ça a un petit côté jugement qu'on essaye de pas véritablement avoir. Et puis après c'est d'autres blogueurs en fait qui nous ont dit ouais mais pourquoi vous faites ça uniquement sur des sites collectifs de critiques, vous devriez faire un blog, vous avez largement la matière pour le faire, donc faites un blog, c'est plus sympa, enfin, et c'est vrai que c'est plus sympa. Et donc le blog lui-même existe depuis 2 ans enfin maintenant, et donc au début j'étais tout seul, et puis après il y a Marianne donc Caribde 7, une des autres libraires qui lit également énormément, qui écrit de très très belles notes de lecture, qui m'a rejoint, et c'est pour ça que c'est devenu Caribde 27, en fait. 2 et 7.
D'où le 7 qui échappe à mon clavier.
Voilà.
C'est assez intéressant parce que finalement, ça signifie que ce blog-là, il devient le relais physique d'un lieu physique où vous ne pouvez pas être en permanence, notamment, j'imagine, pour des questions peut-être financières, c'est-à-dire que vous n'êtes pas libraire à plein temps ou payé à plein temps pour être libraire.
Non,
alors, un lieu internet, c'est un lieu où on peut potentiellement être là quand on veut, ou le soir, ou en dehors des horaires ouverts.
C'est vrai, mais ça nous donnait aussi une liberté peut-être par rapport à... Le blog est peut-être... c'est aussi l'expression personnelle des lecteurs que l'on est avant d'être libraire. C'est pour ça qu'en comme WordPress propose de mettre un petit sous-titre en fait au blog, qu'on avait appelé ça une lectrice, un lecteur, deux libraires. Mais parce que avant d'être libraire, on est en fait lecteur et après, si on arrive à faire partager parfois la passion, parfois simplement l'intérêt pour un livre, parce que tous les livres sont pas des chefs-d'œuvre, on le sait, mais, mais c'est rare qu'il n'y ait pas dans ce qu'on lit des trésors qui sont dedans, enfin, ou même un livre qui est un peu raté, il peut être raté mais sublime, enfin, par des choses qu'il a réussi. Et ça, bon, c'est vrai que le blog est un bon moyen d'abord de le fixer pour soi-même, ensuite de dire bon bah finalement c'est ça qui m'a intéressé dans ce livre, et puis de créer ce qui était quelque chose qui est parfois plus difficile à faire à chaud en librairie ou en discutant avec des amis ou des connaissances, c'est de créer les ponts entre les livres et entre les gens, puisque c'est une chose, et ça c'est un peu lié aussi aux origines de la librairie, mais ça correspond aussi à nos parcours de lecteurs, et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup de sympathie et d'admiration pour ce que fait un dernier livre avant la fin du monde, parce que ce sont des gens qui se fichent un peu des frontières entre les genres. On ne dit pas, ouais, mais ça c'est du roman policier, ça c'est de la science-fiction, ça c'est de la littérature générale. Non, c'est des livres, ils sont bons, ils sont moins bons, ils sont intéressants, ils sont moins intéressants. Et les frontières ne nous intéressent pas tellement. Et à la limite, il y a des choses très riches qui se passent sur les frontières. Et
ce qui prévaut, c'est précisément la subjectivité de la lecture. Et c'est pourquoi vous faites la différence entre votre... En tout cas, vous scindez votre métier de libraire et entre guillemets votre métier de lecteur. C'est-à-dire dans un cas... Il y aurait plus de place ou une place plus assumée pour la subjectivité de la lecture ?
Oui et non, parce que en tant que libraire, on va tout de même, de toute façon, proposer physiquement, et encore plus quand on nous les demande, bien entendu, un ensemble de livres qui sont pas nécessairement, enfin, pour dire simple, qui sont pas notre tasse de thé absolue, quoi. Donc même si, comme on a une petite librairie en taille, on a ce luxe, d'une certaine façon, d'avoir extrêmement majoritairement des livres qu'on aime, voire qu'on adore.
Donc que vous défendez.
Donc qu'on défend. Mais même en étant à 5, sur nos 17 000 livres, on les a pas tous lus. Hein. Il y en a, c'est quand même des amis, des connaissances, des clients à qui on fait confiance, parce qu'on sait comment ils lisent, qui nous ont dit « Non, mais ça, c'est vraiment bien, allez-y, on le prend, mais bon, on peut pas, pourtant on lit beaucoup, hein, mais c'est pas possible. » Après, donc oui, la librairie offre un choix plus large. Ce qu'on lit, effectivement, et ce qui passe à travers le blog, c'est une sélection de ça. Puis il y a parfois des excursions, bon, on lit pas que du roman destiné à être vendu dans la librairie. Moi, ça m'arrive de lire des essais, ça m'arrive de lire des trucs un peu biscornus. Bon, et ça, c'est un choix. Enfin, j'en parle enfin aussi sur le blog, même si parfois ça a vraiment un rapport très lointain, et parfois des livres sur le Go ou sur Mao Tse-Tung et le Go. Enfin,
et ça, ce serait quoi alors? Pas vendable en librairie?
C'est que c'est épuisé. Enfin, il y a des livres qui sont des livres en anglais qui sont indisponibles. Enfin, mais bon, je les lis, moi, j'en parle. Hein. Après, ça donne, de toute façon, même si ce livre-là n'est pas accessible, ça donne des idées d'autres livres. Ça résonne avec un livre qui lui est tout à fait contemporain, qui vient de sortir.
Donc plus de liberté finalement sur ces espaces internet, vous diriez. Alors vous n'avez pas forcément à lire, à vendre des livres, mais plus de liberté sur cet espace-là.
Une totale liberté.
Totale liberté.
Ouais. Justement, cette notion de non-frontière dans les genres et dans les auteurs, dans les années de publication, etc. Grâce à internet, ça devient vraiment intéressant parce que par recoupement, en se promenant sur internet, on peut retomber sur des références à d'autres auteurs qui sont d'autres époques ou dans d'autres genres littéraires, mais où on va trouver le même intérêt, le même plaisir de lecture qu'on a eu avec tel auteur qu'on vient de finir. Donc il y a cet aspect, on abat les frontières, on tombe vraiment sur plus que le plaisir de lecture, ça devient un rapport presque physique avec le livre. Et on sait que ça va accrocher, que ça va nous plaire, et qu'importe le style, qu'importe le genre.
D'ailleurs, vous faites tous les deux, vous avez fait des gestes assez similaires, Teddy et Héloïse, avec vos bras, comme des câbles ou des routes qui se rencontrent, ouais. et peut-être à l'intersection desquelles se trouverait vraiment le livre donné ou le livre cherché, en fait. Et ces câbles ou ces fils de lecture ou ces chemins de recherche, c'est ce que permet Internet ou ce que permettrait Internet?
C'est personnellement, oui, ça me satisfait au niveau de mes recherches de lecture. C'est ce que je trouve le plus pertinent pour moi aujourd'hui.
Quand on lit beaucoup, comme vous le faites, André Gauthier, est-ce que l'enthousiasme ne finit pas par s'émousser un peu, ou bien est-ce que la fin appelle la fin ?
Alors là, je vous étonnerais, je m'étonne moi-même, je suis toujours enthousiaste. Et ça, c'est peut-être comme ça que tout le monde dit que je ne vieillis pas. Bon, si, les cheveux me prennent, vous voyez, c'est un peu blanc, les rides qui arrivent par là, mais pas du tout l'enthousiasme. Je suis toujours enthousiaste quand je lis. Surtout quand je découvre des talents, ou quand je relis des livres que j'ai beaucoup aimés, parce que le talent est là, est reconnu maintenant, mais ça me fait toujours, ça me donne toujours beaucoup de joie.
Vous les prêtez, vos livres ?
Ah oui, moi je prête mes livres. Souvent, on ne me les rend pas, et ça me fait de la peine, surtout quand ils sont dédicacés, mais je prête facilement mes livres. Bon, si on ne me les rend pas, ben tant pis. Mais j'aime faire partager mes passions, quelles qu'elles soient. Alors je les prête.
Joie et passion et prêt d'ailleurs dans la voix d'André Gauthier. C'est une archive d'il y a 25 ans diffusée sur France Culture. Elle s'entretient avec Alain Vincent dans l'émission Du jour au lendemain. Ça nous permet de revenir sur ces deux mots que vous avez vous aussi prononcé beaucoup, la joie, le partage, la passion, même si vous avez dit Hugo Pac que c'était plus égoïste que Héloïse était dit. Est-ce que vous mettez au cœur de votre écriture à propos de la lecture ce qui est vous procure des émotions des sentiments positifs? En d'autres termes, écrivez-vous sur des textes que vous trouvez mauvais? Héloïse?
Alors, moi, j'en suis incapable. Parce que le but, c'est pas du tout la critique. Mais c'est vraiment le côté... Moi, j'aime bien le terme de chronique. J'aime beaucoup ce terme de chronique.
Pourquoi?
Et la subjectivité qui va avec. C'est plus des cris d'amour construits. Voilà, ce serait ça, en fait.
Et c'est facile à construire, un cri d'amour pour une lecture?
Alors pour moi, c'est assez nouveau, donc finalement, je découvre l'exercice. Avant, comme vous disiez, hein, je faisais 10 petites lignes, voilà, c'était vraiment du cri primal presque. Et là, maintenant, fixer pour soi-même, c'était bien ce que vous disiez aussi. Lire un livre, le poser et se fixer pour soi-même tout ce qu'on a ressenti dans la lecture. Et c'est vrai que l'intérêt de la chronique pour moi, c'est pas tellement de raconter l'histoire, surtout pas, le moins possible. Le moins possible, mais voilà, dire les liens qu'on a pu faire, ce que ça nous a fait, mais de manière construite. C'est un exercice qui est passionnant, que j'adore.
Est-ce que c'est un exercice qui change votre position de lectrice, la manière dont vous lisez? Est-ce que le fait de savoir que potentiellement vous allez écrire une chronique subjective sur pourquoi pas ce livre-là, ça fait de vous une lectrice différente?
Oui, et ça c'est peut-être parce que je débute aussi.
En quel terme ça vous change?
Ben, je vais pas forcément attendre la fin du livre pour commencer à y penser. En temps normal, je lis, je suis dans la lecture, je vais lire, puis à la fin, je vais à la rigueur me poser et voir ce que ça m'a fait. Là, j'ai le petit biais quand même qui s'est fait d'y penser au fur et à mesure. Et là-dessus, j'ai l'intention de travailler. Je préfère laisser vraiment les choses se construire toutes seules, petit à petit, plutôt que de se forcer à penser à. Parce qu'en fait, on s'égare quand on fait ça.
Vous prenez des notes pendant votre lecture ? Jamais. Et vous, Teddy ?
Non. Puis moi, la différence, je lis le livre en entier avant de m'attaquer à la chronique. Je n'y pense pas avant. J'essaie de compartimenter, d'avoir ma partie lecture et après, une fois fini, l'analyse et la construction de la chronique. Vraiment de séparer, pour garder justement ce plaisir de lecture.
Est-ce qu'il y a des plaisirs de lecture que vous ne chroniquez pas?
Oui, beaucoup même. Ouais. Des choses que, pour le coup, je rejoins avec Robert, que je garde égoïstement pour moi, ouais. Bien sûr.
Et sans, parce qu'on entendait dans la voix de cette dame, André Gauthier, parler vraiment de la joie, de la passion, mais aussi d'une joie redoublée, une passion redoublée au moment du partage.
Bien sûr.
Garder une lecture secrète qui nous a comblé de joie, ça n'enlève pas à votre plaisir?
Non. J'ai même 5 ou 6 livres que je garde.
Et vraiment que vous taisez?
Oui, qui sont même cachés dans la bibliothèque. Personne ne touche.
Et vous ?
Non, moi, pour l'instant, ça changera peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant, enfin, depuis que je fais ça, je chronique tout ce que je lis.
Tout ce que vous lisez ?
Tout ce que je lis. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Hein, mais, et du coup, ça a comme contrepartie, surtout au début, il y avait des critiques négatives. Mais après, là, en 3-4 ans, et ça, je pense que c'est ma pratique de lecture qui a changé. Moi, j'ai pas d'obligation de lire des livres. Enfin, alors, même s'il y a la tentation de lire les nouveautés, parce qu'il faut pouvoir en parler. Enfin,
on y reviendra.
En tant que libraire, cette fois. Mais c'est pas une obligation très forte. On est une librairie, en plus, qui privilégie énormément le fond. On a un assortiment qui a peu de nouveautés en proportion par rapport à ce qui se fait en général. Donc, c'est pas une trop grosse contrainte. Mais là, c'est probablement les préjugés qui se renforcent. Je pense que je suis un lecteur assez éclectique, mais si je subodore que ce livre, il va pas me plaire, ou bien que c'est une méchante bouse...
Vous n'y allez pas.
Je vais pas y aller. Enfin, je suis pas masochiste. Enfin, donc, du coup, sur les dernières années, les vraies critiques négatives qui m'est arrivé de produire, il y en a très peu, c'est peut-être 4 ou 5 par an sur plus de 250, ça va être quand il y a un sentiment de trahison ou de déception. C'est-à-dire que par rapport à ce que je pensais que... l'intérêt du sujet, ou ce à quoi l'auteur m'avait habitué, ou ce qu'on m'en avait dit, ou une quatrième de couverture un petit peu trop travaillée. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas bon, ce truc. Enfin, c'est vraiment pas bon. Et là, je peux parfois me laisser aller, et parfois je regrette, parce que je suis assez vilain quand je me laisse un peu aller. Donc ça arrive rarement. Et ce qui est terrible, c'est que c'est les plus lus, après.
Les chroniques internet qui sont...
Les très rares qui sont un peu méchantes, c'est celles qui viralise beaucoup plus que les autres, enfin, ce qui est un petit peu triste quand même. Mais bon.
C'est pas de votre faute.
Non.
Héloïse disait que l'apprentissage de la chronique de la lecture, hein, pour ne même pas dire la chronique littéraire, de la chronique de la lecture, c'est apprendre à structurer un cri d'amour. Est-ce que c'est facile à apprendre à structurer ? Est-ce que vous écrivez, est-ce que vous apprenez davantage à écrire sur vos lectures ?
Oui et non, parce que ouais, cette question de structure était, Héloïse a entièrement raison, c'était vraiment une chose vitale, parce que au début j'avais très peur, mais vis-à-vis de moi-même, en fait j'aime pas trop en tant que lecteur deux critiques, les critiques purement d'humeur, qui sont juste c'est chouette, j'ai beaucoup aimé. Ça m'aide pas beaucoup, ça. Enfin, donc,
Sachant que c'est quelque chose qui existe énormément hein, sur la toile, hein, le partage très vif et très, pour le coup, viral et très rapide de « j'ai adoré, je te le conseille » ou « c'est vraiment super, tu vas t'éclater, achète-le », ça existe énormément.
Absolument, mais moi j'ai sans doute besoin, enfin comme j'en ai besoin quand je le lis, de comprendre un peu pourquoi, malgré tout, le pourquoi. Alors on ne sait jamais le pourquoi exact, il y a évidemment une part de subjectivité, de chance, de choses qui sont dans le non-dit. Mais d'essayer de le faire sentir quand même un peu plus précisément. Donc j'essaye de le faire. Moi, ce qui aboutit à donner effectivement une structure qui est parfois même un peu stéréotypée, parce que moi c'est aussi des choses qui me tiennent à cœur. Donc après, peut-être que certains des lecteurs du blog, ils disent bah, il est fatigant avec
qu'est-ce qui vous tient à cœur, cette structure, cette argumentation?
Non, le fait par exemple de toujours dire quand le livre a été écrit. Pour moi, c'est une chose importante. C'est pas pareil si ce livre il a été écrit il y a 6 mois ou s'il a été écrit en 1955. Enfin, c'est important. Ça, c'est moi, je mentionne toujours la traductrice ou le traducteur. Je trouve que c'est vraiment important parce que alors là, il y a un petit côté légèrement, enfin gentiment militant, c'est que les traductrices et les traducteurs sont toujours un peu trop oubliés et c'est dommage parce que sans eux, enfin, il y a toute une partie de la littérature qu'on n'aurait pas, quoi. Parce que moi, je parle une ou deux langues étrangères, mais pas 7 ou 8. Et puis il y a des petits côtés qui sont d'aller extraire dans un roman ou si au total je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes dedans, qu'il y a des choses même qui m'ont captivé ou qui m'ont ébloui, je vais quand même plutôt parler de ça. Et puis les défauts, soit j'en parlerai pas, soit je les minorerai en disant c'est vrai qu'il y a des défauts, mais ils
sont
pas...
comme vous disiez tout à l'heure, parfois c'est raté mais c'est sublime. Voilà. Par ailleurs, voilà. Teddy disait il y a quelques livres quand même que je cache, dont je ne parle pas et dont le plaisir est en moi mais muet aux autres. C'est vraiment ça, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas.
Non, mais c'est, et même au contraire, en fait, parce que je me suis aperçu. J'ai créé une rubrique spéciale, en fait, dans le blog, qui est un peu plus petite qu'une lecture courante, qui s'appelle « Je me souviens ». Et c'est parce que, et ça, c'est lié à l'expérience de l'oral, en fait, à la librairie. C'est qu'en parlant avec des amis, je mentionne un livre que j'ai lu il y a 20 ans, dont j'ai gardé un souvenir extraordinaire. Mais je vais pas le relire pour pouvoir en parler sur le blog, parce que sinon je passerai le reste de mes journées à
c'est
ça.
C'est juste cette petite trace que vous évoquez.
Et donc du coup, je prends le livre dans ma bibliothèque, je l'ouvre devant moi, mais je ne le relis pas. Je le parcours, et puis je fais un petit billet qui dit pourquoi à l'époque, il y a 20 ans ou il y a 30 ans, pourquoi je l'ai adoré. Et puis, en espérant qu'il est resté à peu près ce qu'il était. Mais donc c'est une sorte de... Enfin, c'est pas une relecture, c'est un reparcours très rapide. Mais du coup, là-dedans, il y a des trésors qui ont 25 ans, enfin, que j'ai lu quand j'avais 20 ans. Et en fait, j'ai envie d'en parler, moi, au contraire.
C'est vous, Teddy, qui êtes venu avec pas exactement cette version, mais presque, de ce morceau. Oui. De quoi s'agit-il ?
Maserati, un groupe rock instrumental, en fait. C'est typiquement le genre de musique que j'écoute pour lire, justement, qui contribue à mettre un peu en ambiance ma vie de lecteur et ma vie sur le site aussi, parce que la musique, on a tout le temps, ça m'accompagne de partout.
Vous écoutez de la musique pendant que vous écrivez et pendant que vous lisez ?
Oui.
Et au casque ou juste dans l'appartement, dans la salle ?
Dans l'appartement, ouais. Moi aussi au casque quand je suis dans les transports en commun. Ouais. Mais c'est vrai que ça m'accompagne de partout. Ça contribue à l'ambiance de l'univers d'un livre où ça m'aide aussi à, quand j'écris, ça me replonge dans ce que j'ai ressenti au moment de la lecture.
Et vous choisissez des morceaux ou des playlists en fonction du livre que vous vous apprêtez à lire ?
Ça m'arrive.
Selon quels critères ?
Une question d'ambiance qu'on va rechercher, qu'on s'attend à retrouver dans le livre et qui va nous aider à nous plonger dedans.
Et c'est toujours juste, par exemple, quand vous commencez un livre ou quand vous apprêtez à entamer la lecture d'un livre.
Non, c'est souvent faux, je suis assez mauvais là-dedans.
Vous tombez souvent à côté dans la musique que vous choisissez.
Ouais. Mais bon, c'est intéressant, c'est constructif aussi en même temps. Mais je me plante assez régulièrement.
Et donc vous écoutez la même musique pour écrire sur le livre que vous avez lu que celle que vous avez écoutée pendant que vous avez lu le livre.
Oui. C'est comme un marqueur, en fait. Ça me rappelle ce que j'ai ressenti. Ou même, ça me rappelle carrément des passages dans certains livres.
C'est marrant, ça fait vraiment appel à ce pouvoir très évocateur dont on parlait hier à travers un texte de Julien Gracq, amené par l'une des étudiantes et l'une des lectrices, et où Gracq parle de la manière dont un petit bout de texte, et on peut éventuellement parler de ça pour la musique, rapatrie l'ensemble du texte, y compris dans le corps du lecteur. Vous disiez tout à l'heure, je ne sais plus si c'était Teddy ou Hugues Robert, de la tentation de lire les nouveautés qui paraissent, l'actualité éditoriale, comme on dit. Il se trouve qu'il n'y a pas très longtemps est apparue une édition des entretiens d'André Dubouchet avec Alain Weinstein, et que Weinstein y raconte la manière dont Dubouchet se moquait de lui à le voir lire le tout venant, ce qu'il appelait le tout venant, et d'une certaine manière à perdre son temps. Pourquoi est-ce qu'on, du point de vue de Dubouchet à ce moment-là, pourquoi est-ce que vous parlez de l'actualité éditoriale comme d'une tentation, Hugues Robert ?
À cause de son volume, en fait, tout simplement. C'est que... Et justement, enfin, c'est pas péjoratif, mais c'est parce que chaque mois, il y a des livres fabuleusement intéressants qui sortent. Moi, c'est une chose qui m'attriste à chaque fois, enfin, au mois d'août ou au mois de septembre, en discutant avec des amis, comme ils disent, ah, il y a rien dans cette rentrée littéraire. J'en dis, oh, malheureux, mais moi, enfin, avec trois ou quatre vies supplémentaires, j'arriverai pas à lire tout ce qu'il y a d'intéressant. Enfin, je comprends pas comment on peut dire ça, sauf à être infiniment plus élitiste que je ne le suis, quoi. Mais en revanche, le simple volume, et justement, c'est une tentation parce qu'ils sont là, parce qu'on en parle, parce qu'il peut y avoir une espèce de sentiment de devoir. Alors, surtout encore plus en tant que libraire qu'en tant que blogueur, de parler de ces livres parce qu'ils sont là et parce que, y compris quand c'est des éditeurs qu'on aime bien, par exemple, on sait très bien que, idéalement, un livre, il aurait sa vie et puis on en parlerait dans 6 mois ou dans 1 an ou dans 2 ans et tout le monde serait très content. Mais on sait bien que c'est pas comme ça que ça se passe, que et surtout pour les éditeurs de taille moyenne. Un livre, si on n'en parle pas dans les 2-3 mois qui suivent la sortie, c'est un peu une occasion gâchée, surtout s'il est bon. Donc du coup, avec ce sentiment de devoir, ça prend déjà une bonne partie du volume possible de lecture. Et c'est pour ça que je dis que c'est une tentation, parce qu'une fois qu'on a commencé à lire 10, 15 nouveautés dans le mois, on passe à 20, 25, puis ça y est, c'est fini, quoi. On a fait le mois, et tous ces livres d'il y a 10 ans qui attendent, ces relectures qu'on adore, enfin que moi j'adore faire...
Il passe à la trappe.
Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de... à avoir en tête une espèce de politique des quotas sur les nouveautés, quoi, pour dire non, pas plus de 10 par mois ou pas plus de 12 par mois, parce que sinon, il n'y a plus de la place pour rien d'autre. Quoi.
Ça veut dire que vous avez intégré le rôle qu'ont vos différents biais sur les blogs à faire vivre des livres en ligne et on l'espère ensuite en vente en librairie. C'est quelque chose auquel vous pensez, Teddy et Louise ?
Sur les biais.
Oui, l'importance que ça a, parce qu'évidemment, ça fait voilà ce que des chercheurs parlent d'irréputation sur le web, sur Internet, et on sait évidemment l'importance que ça a au moment d'acheter, de trouver un livre, de se renseigner sur sa qualité. C'est quelque chose dont vous avez conscience ?
Oui. Bah, c'est vrai qu'en Internet en soi, c'est vrai que c'est tellement d'informations, tout le temps. à la minute. Ça file dans tous les sens. Et c'est vrai que, bah, il y a toujours déjà l'information est rapidement noyée. Vous parliez des éditeurs tout à l'heure qu'on a envie de défendre. Et c'est vrai que du coup, ça crée déjà ce biais-là parce qu'on se dit, ben oui, là, ces éditions-là qui se sont montées, elles font vraiment un super boulot. Et là, ben, on a envie d'en parler, on a envie. Donc on en parle, on laisse passer d'autres choses à côté. Peut-être qu'on en parle peut-être pas assez encore. Et peut-être qu'il y a toujours ce risque, en fait, d'être noyé dans la masse, de passer à côté de quelque chose. Les biais sont multiples. C'est vrai que, avant tout, voilà, laisser parler le cœur au départ aussi, je pense, pour éviter de se mettre trop de pression, de se mettre trop de... Puis il faut rester humble aussi par rapport à l'influence qu'on peut avoir, finalement. Voilà, rester humble, faire ça avec passion.
C'est assez difficile à mesurer de toute et façon. Évidemment, un conseil en librairie, parfois, il va faire boule de neige et puis on va en parler au café, puis au dîner, puis à ses parents, puis à ses amis, puis ça va refaire boule de neige et on ne sait jamais exactement la puissance qu'un conseil de lecture peut avoir. Néanmoins, vous commencez cet entretien, Teddy, en parlant de vos lectures, de blogs, d'auteurs américains qui renvoient vers d'autres lectures. C'est-à-dire que c'est quand même assez infini. La dimension que peut avoir un seul entre guillemets, petit billet sur un blog de lecture peut essaimer jusqu'au bout du monde et avoir plein de lecteurs en cascade. C'est quelque chose à quoi vous pensez ?
Oui et non. Alors, on espère avoir un impact et transmettre cette information et partager l'envie de lire tel auteur ou tel livre ou telle série de bouquins. Après, vu que ça reste du virtuel, on peut pas le quantifier difficilement. Donc
par les passages, les personnes qui passent lire le blog éventuellement, mais c'est qu'un titre
indicatif.
Mais on ne
sait pas si ça déclenche un achat ou si ça déclenche l'envie de lire le livre. Oui, on a des chiffres de combien de personnes passent par jour, par mois, par an, etc. Quelle chronique marche le plus par rapport à d'autres. Mais on fait pas gaffe. On essaie vraiment d'avoir cet aspect. C'est un coup de cœur, on en parle. On parle pas de bouquins qu'on n'a pas aimé, on parle vraiment de coup de cœur. Et il y a le côté un peu rêveur, où on se dit oui, on fait une super chronique, elle a un super retour, elle est partagée. Espérons que ça va générer quelques envies et que ce livre va être partagé, forcément.
Ouais. Vous parlez de parfois votre admiration, en tout cas votre regard qualitatif sur le travail de certains éditeurs. Vous avez des retours des éditeurs ou des auteurs eux-mêmes qui peuvent apprécier une lecture qui a été faite de leur ouvrage ?
Ça arrive assez fréquemment, ouais, hein, bien sûr. Les éditeurs, surtout, ils sont assez à l'affût de ça. C'est une reconnaissance pour eux parce que c'est quand même énormément de boulot à préparer avec et l'auteur, le traducteur s'il y a besoin, et puis après le relais avec les libraires, etc. Donc d'avoir des sites qui mettent leur édition, leur collection ou certains titres qu'ils éditent en avant, c'est toujours intéressant pour eux et ils nous le font savoir régulièrement, oui, bien sûr.
Parfois, ils vous identifient comme étant un lieu où on peut parler des livres qu'ils publient, un lieu qui n'existe pas ailleurs. Est-ce que, par exemple, il y a des éditeurs qui vous disent ben, « heureusement que vous êtes là parce que sinon, on ne parlerait pas des bouquins qu'on publie »
On n'a jamais eu ça. Par contre, non, on est souvent cité sur les pages d'éditeurs parce qu'ils relaient la chronique en mettant un lien vers le site, donc... Il y a cet aspect-là, oui.
Ils l'ont identifié, en tout cas.
Bien sûr.
C'est aussi le cas pour Charybde.
Ça dépend, bien entendu, des textes. Mais oui, je pense qu'il y a un certain nombre d'éditeurs, et nombreux désormais, qui intègrent les blogs ou certains blogs dans leur revue de presse, en fait, dans leur propre revue de presse. Et on s'y retrouve à ce moment-là. Alors, c'est vrai que, en ce qui concerne notre blog, en tout cas, on s'y retrouvera d'autant plus que c'est des éditeurs qui n'ont pas nécessairement les couvertures de presse massives. Donc, où là, comme vous le disiez, le moindre billet, en espérant qu'il soit bien, mais peut-être qu'il n'est pas si bien que ça, notre billet, mais en tout cas, il existe. Hein, et il est enthousiaste, et il dit quelque chose d'intéressant sur le livre. Et à ce titre, je suis d'accord avec ce que disait Teddy et Louise, on ne sait pas quelle est la vraie influence. On espère que ça fonctionne, que ça donnera envie. Alors, est-ce que ce sera une personne ? C'est déjà de toute façon énorme, parce que c'est de la guérilla, de toute façon, tout ça. C'est pas autre chose que de la guérilla.
Pourquoi vous dites ça ?
Oh, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un travail, et ça, c'est... On est dans un travail, en fait, même quand c'est fait à travers du réseau social ou du blog, c'est un travail qui est éminemment interpersonnel, donc de personne à personne. On revient au bouche à oreille presque physique en réalité, même si c'est complètement dématérialisé. Et donc du coup, il y a des effets d'amplification, comme vous le mentionniez, mais c'est quand même...
C'est de la petite échelle, c'est vraiment...
C'est à petite échelle. Et puis parce que, c'est vrai que je pense que le livre est quand même quelque chose qui s'est énormément fractionné. Et ça, c'est pas du tout un malheur, hein, mais c'est un fait. Ça le rend certainement plus vulnérable, mais en même temps plus foisonnant, plus riche.
Ça veut dire quoi, le livre s'est fractionné ?
Que je pense qu'il y a plus de titres, hein, donc il y a moins d'audience par titre. Ça, bon, c'est ce que les éditeurs disent tout le temps, hein, que c'est dur parce que c'est dur d'en vendre beaucoup, etc. Et je pense que du coup, 10 lecteurs ou 15 lecteurs ou 25 lecteurs en plus pour un livre, ça a de l'importance en réalité. Enfin, c'est pas seulement symbolique, c'est toujours ça. Et puis ces 25-là, si eux-mêmes, si eux-mêmes en convainquent chacun un autre, et ben, ça fait 50 et ainsi de suite, quoi. Et c'est vrai. Donc, c'est des petites échelles, mais. C'est important, enfin.
Oui. On parle souvent que quand on entend des libraires, des lecteurs passionnés, ils parlent souvent de cette bataille, de cet engagement, parfois de ce sacrifice aussi, du temps passé à défendre des lectures. Pourquoi c'est important ? Pourquoi c'est finalement, si on revient à la raison et au sens que nous donnons à ces lectures et au partage de ces lectures, pourquoi cela nous importe de partager quelque chose que nous avons lu et qui nous a touchés ?
Moi, j'ai souvent le sentiment, enfin, c'est pas vrai de toutes les lectures, mais certaines lectures où effectivement, sans que je me sois posé la question comme ça, je me dis, tiens, mais ça, j'ai vraiment envie de le partager. Au fond, pourquoi? C'est sans doute parce que ça donne une lecture du monde ou d'un bout du monde dans laquelle je me retrouve, que j'ai envie de partager avec des gens, et je serais bien incapable, moi, de le faire aussi bien que ce que fait ce roman, cette nouvelle ou ce poème. Et donc, du coup, c'est lui qui va accomplir la mission de dire « ça, c'est un bout d'univers qu'on partage, quoi. Un regard sur le monde. » Et l'auteur le fait infiniment mieux que je ne le saurais le faire avec mes mots, moi.
Teddy et Louise, sur cette question-là, au fond, pourquoi c'est important, par Internet ou autrement, de partager des lectures ? C'est marrant, vous n'êtes pas jamais posé cette question-là.
Non, c'est vrai, jamais posé.
Presque
jamais, ouais. Non, la notion de partage, ça fait un peu partie du livre, en fait.
C'est pas... Non, ça d'accord, mais pourquoi c'est important ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de partager ça ?
Moi, c'est que je rejoins Hugues là-dessus, complètement.
On transmet un regard sur le monde que, par ailleurs, nous sommes incapables de produire.
Ah, tout à fait, tout à fait.
T'es dit à suivre, on se rappelle.
Ouais, voilà.
Troops par Lisa van der A. C'est vous qui êtes venu avec ça, Hugues Robert, pour partager, parce que oui, ça vous plaît, j'imagine.
Ouais, énormément. J'adore Lisa van der A. J'adore ce qu'elle fait en disque. J'adore ce qu'elle fait sur scène. C'est vraiment une artiste assez exceptionnelle.
Et en plus, c'est une artiste qui vous a permis de réfléchir encore un tout petit peu à cette question posée juste avant d'écouter le morceau, à savoir pourquoi est-ce qu'il nous importe tant de partager les lectures qui ont produit quelque chose en nous.
Mais oui, ça m'est venu à l'instant. Je me suis dit qu'il y a peut-être une part de recherche de symétrie, en fait. C'est qu'à certains moments de ma vie, sur des textes qui m'avaient soit touché, soit simplement dont j'étais curieux, j'appréciais énormément de trouver des personnes, et c'est vrai qu'avant Internet, c'était infiniment plus difficile, des personnes pour m'en parler ou pour m'en expliquer un aspect que je n'avais pas saisi, enfin, ou pour attirer mon attention sur un point de ce roman. Et je me dis, ben, finalement, c'est bien aussi, parce qu'il y a peut-être, malgré tout, des gens qui ont exactement qui sont exactement dans cette situation, qui ont besoin d'un petit truc en plus ou d'un éclairage différent, surtout si ce n'est pas nécessairement l'éclairage majoritaire. Et je me dis, bon, bah, c'est aussi voilà, donné, parce que moi j'étais bien content de recevoir ça, ou je suis encore très content de le recevoir, et c'est pour ça que je lis quand même un certain nombre de blogs assez régulièrement, alors pas sans arrêt, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a un échange, et un échange, voilà, il faut apporter quelque chose, et puis sans être totalement maussien, mais il y a quand même cette idée, on donne, et puis on recevra peut-être, mais en tout cas c'est chouette.
On va faire un petit tour de table hein, quand même, parce que c'est évidemment ce qui se passe notamment à la lecture des différentes listes que vous avez publiées les uns les autres sur les blogs, c'est qu'on a un appétit très grand d'aller pousser la porte d'une librairie et d'aller acheter 1, 2, 3, 4 livres pour se jeter dessus. Les récentes joies ou vraiment quelque chose qui vous a enthousiasmé récemment, livre récent ou livre ancien d'ailleurs, Teddy.
La réédition, Salomon Gorski de Mordecai Richler. J'en avais beaucoup entendu parler et les éditions du Sous-Sol l'ont réédité en février dernier. Une très très grosse surprise, vraiment un roman monde, vraiment quelque chose de complet, avec des altérations de temps, de personnages, d'époque, même de style d'écriture à des moments. Enfin, vraiment, on en a pour son argent, pour son plaisir. C'est vraiment complet.
Héloïse ?
Alors moi, c'est mon gros coup de cœur de 2015, mais qui n'a pas été détrôné encore. C'était « Aux animaux la guerre » de Nicolas Mathieu. Un bon roman noir avec tout ce qui fait un bon roman noir, selon moi.
Et paru aux éditions, puisqu'on a parlé
Acte
des éditeurs.
Acte Sud, et qui est sorti en poche début d'année.
Bonne nouvelle.
Bah oui.
Et vous, Grobert?
Il y en a plein, mais il y a trois livres que j'ai beaucoup aimés en janvier, donc je vous dis très vite. Il y a le Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Message, qui est une magnifique métaphore allégorique, mais très travaillée en fait sur ce que c'est une espèce, enfin, et le rapport aux autres, qui est au seuil. Il y a le livre de Charles Robinson, Fabrication de la guerre civile, qui est aussi au seuil, qui est magnifique et qui sera chez Carib prochainement. Il y a le livre de Claro, paru aux éditions de Log, Comment rester immobile quand on est en feu, qui est de la poésie formidable. Enfin, et puis là, beaucoup plus récent, il y a seulement le deuxième livre de Jeff Vandermeer, enfin traduit en français, qui est le Annihilation, qui est le premier tome d'une trilogie, mais qui se lit indépendamment, qui raconte l'exploration d'une zone X assez spéciale, où il se passe plein de choses. Il y a le livre de Laurent Klotzer.
Ah oui, enfin, on vous arrête plus.
Encore de Laurent et Laure Klotzer, qui sort dans quelques jours, qui s'appelle Vostok, et qui raconte une bande de... Je ne vais pas les qualifier, une bande de gens qui investissent une station antarctique soviétique abandonnée. C'est exceptionnel.
Et
je découvre Olivia Rosenthal pour la première fois de ma vie, alors qu'on m'en disait énormément de bien depuis des années. Et là, je viens de lire, donc, toutes les femmes sont des aliens. Et je suis sous le charme. C'est un vrai choc. C'est superbement écrit. Ça donne envie, enfin, de lire plein d'autres livres en parlant de Alien, de Bambi et puis du livre de la jungle. C'est formidable.
De toute façon, le reste est à lire. Le reste de vos lectures sur caribde27.wordpress.com et de votre côté, un dernier livre.net.
Vous écoutez France Culture, Les Nouvelles Vagues par Marie Richeux.
On ne va pas s'arrêter de parler de lecture puisqu'il est 14h51 sur France Culture. C'est Romain Villet qui parle dans cette rubrique au singulier depuis lundi. Aujourd'hui, il nous parle aussi d'un ouvrage.
Oui, l'ouvrage dont je voudrais vous parler, c'est donc Le Monde des Aveugles de Pierre Villet. Alors Pierre Villet, il y a d'abord une première ironie, c'est que c'est mon homonyme. Lui c'est avec un Y, moi c'est avec un T. Mais la chose est troublante, je suis déjà né le 4 janvier comme Louis Braille, et si je parle de Louis Braille, c'est que le deuxième point en commun que j'ai avec Pierre Villet, c'est qu'il est aveugle comme moi. Et il a donc écrit ce livre absolument fascinant, qui s'appelle « Le monde des aveugles », qui est apparu en 1914, qui est une toute petite partie de l'œuvre de Pierre Villet, puisque Pierre Villet était extrêmement brillant, il a perdu la vue vers 6 ou 7 ans, il est rentré à Normale, c'est un des très grands spécialistes de Montaigne, dont on continue à lire les travaux aujourd'hui, et parallèlement à ses travaux universitaires sur Montaigne, il s'est donc intéressé à la condition des aveugles, de façon générale, pour essayer de comprendre, mais lui-même le comprenait, mais surtout de faire comprendre ce qu'étaient les aveugles, la façon dont fonctionnait leur cerveau, leur implication dans la vie sociale, leurs possibilités professionnelles, leur désir artistique. Donc c'est un livre qui embrasse à peu près tous ces sujets. Et la lecture de ce livre a été une sorte de révélation pour moi. Il s'intéresse véritablement aux aveugles pour eux-mêmes, en essayant d'expliquer ce qui leur est possible, ce qui leur est impossible. En l'occurrence, il commence par là, par leur capacité intellectuelle, en expliquant que les capacités intellectuelles des aveugles sont exactement les mêmes que celles des voyants, si ce n'est qu'ils ne comprennent ni ce que sont les couleurs, ni ce qu'est la perspective. Mais qu'en dehors de ça, leurs capacités mentales sont exactement les mêmes que les autres. Alors, quand on dit la chose comme ça, on a l'impression qu'il enfonce une porte ouverte. Sauf que ce n'est pas du tout une porte ouverte, parce que, y compris 100 ans plus tard, puisque Le Monde des aveugles a paru en 1914, les aveugles restent très chargés dans l'imaginaire collectif par une certaine image de ce qu'on voudrait qu'ils soient et de ce qu'ils ne sont à l'évidence pas du tout. C'est aussi une langue qui est très belle, qui est relativement simple, parce que ça, Pierre Villet s'en explique, il parle un peu de lui, pas tout à fait assez à mon goût, parce qu'il y a une forme de pudeur qui tient aussi à ce qu'était son statut à cette époque-là, mais il raconte qu'il tapait en fait ce qu'il écrivait à la machine à écrire, et que donc il procède principalement par petites phrases courtes, tout simplement parce que ne pouvant pas se relire, il a peur de s'emberlificoter s'il va trop loin dans les subordonnées. Et donc il raconte ce genre de choses, et il fait une espèce de panorama de ce que sont la condition des aveugles à son époque, donc en essayant d'expliquer aussi bien ce que sont les très grands musiciens, notamment ceux qui ont été formés par César Franck au conservatoire, mais pas seulement ceux qui se sont employés à des travaux intellectuels, et puis les autres aussi, ceux qui pratiquent des travaux manuels. Et puis ce livre va aussi dans des terrains qui sont, enfin sur des terrains qui sont ceux de la vie domestique, de la vie très très concrète. Est-ce que les aveugles doivent se marier, avec qui, pourquoi, quelle incidence ça a dans la vie familiale. Il va très loin, puisque cette démystification a encore besoin d'être faite et qu'il l'a fait de façon remarquable, et là-dessus il n'y a rien à dire. Après, il y a effectivement quelques petites bricoles qui n'ont pas révolutionné la vie des aveugles, mais qui l'ont quand même beaucoup changé. Je pense notamment à l'informatique, puisque l'apport des informatiques à la vie des aveugles a résolu un certain nombre de leurs problèmes, notamment pour l'accès à la culture.
Tu par surprise. Il se peut qu'elle ait déjà fui, diluée par la clarté du jour. Elle reviendra au détour de la nuit. Ne demande rien à l'ombre, ne demande rien à l'ombre.
Un extrait du dernier album de Françoise Breut qui est sorti le 14 mars dernier, qui s'appelle Zoho, et le titre s'appelle La danse des ombres. Hugues Robert, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. On rappelle, c'est Charybde et le blog en question, charybde27.wordpress.com, est dédié. Héloïse, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Un dernier livre avant la fin du monde, et c'est un dernier livre point
net.
Les nouvelles vagues, c'est terminé pour aujourd'hui. On peut se lire et s'écrire via notre page. C'est pas exactement un blog, mais presque. Franceculture.fr, à l'onglet Les Nouvelles Vagues. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast, de sorte que les émissions vous arrivent directement chez vous, dans vos machines, automatiquement. On peut aussi se parler via Twitter et Facebook et continuer d'échanger. Merci beaucoup pour vos messages et merci à Romain de Bec de Lièvre, à Inès Duperron, Alice Ramon et Chloé Leblon qui pensent et imaginent cette émission avec moi. Une émission réalisée par Lise Combe, avec aux manettes aujourd'hui Jean-Guilain Meige et au droit d'auteur Thomas Bizot. Dans un instant, ça danse en cabine. Dans un instant, l'émission littéraire de France Culture avec Mathieu Garrigou-Lagrange. Thank you.